Avant d'écouter un nouvel épisode de Calcio et Pépé, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique Calcio et Pépé. C'est sur www.calcioepépé.shop et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien. Milan, Juve, Inter, Roma, Napoli, la sélection nationale, les grands joueurs des années 80, 90 et 2000. Et encore d'autres posters dédiés au football européen avec plusieurs clubs espagnols, allemands, anglais, français, Ligue 1, Ligue 2 et d'autres sélections nationales, sans oublier même quelques affiches vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast et c'est donc à retrouver sur calcioepp.shop.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallonetto, Francesco Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2-0.
Cacca in percussione, Sciacca l'ingresso in aria ancora, Cacca, davanti al portiere, Cacca, rete, 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 Cacca.
Pallone che arriva, Trezeguet, Toni! Pirlo ancora, Pirlo di tacco, tiro, grosso, grosso, gol di grosso. Prova a girarsi Icardi, destro secco, rete, rete, proprio lui, il capitano, fa esplodere San Siro. Avanti Cavani, avanti Matador, sei tutti noi Matador, ci provo con il testo,
e la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, si gonfia la rete, Matador!
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pépé, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Maillard-Pacini. Salut Guillaume.
Bonjour Monsieur Anne Crochet, quel plaisir, quel énorme plaisir de te retrouver,
ouais.
D'en retrouver les auditrices, d'en retrouver les auditeurs. J'ai eu beaucoup de messages sur Twitter qui m'ont dit « mais c'est quand que vous revenez ?» Bah nous revoilà, Ivan, nous revoilà.
Et il nous fallait une belle, une bonne occasion. Et même si on n'a pas été super présent ces derniers temps, il faut le dire, on avait envie quand même de faire un petit focus sur les quarts de finale de Coupe d'Europe, donc c'est-à-dire la Ligue des Champions évidemment, mais aussi Europa League et Conference League, puisque mon cher Guillaume, et ça c'est déjà la belle nouveauté, même si maintenant on le sait depuis quelques semaines, mais il y a quand même encore 6 clubs italiens engagés en Coupe d'Europe en quarts de finale.
Eh oui, et c'est arrivé que deux fois dans l'histoire, c'est il y a très longtemps, une vingtaine d'années, donc non, c'est évidemment une très bonne nouvelle et quand même, on sait que dans tous les cas, il y aura un club italien en demi-finale de Ligue des Champions, Ivan. Ouais. Et déjà ça, quand même, je pense que pas grand monde n'aurait signé en début de saison pour ce cas échéant. Peut-être même deux si l'Inter venait à passer Benfica. Donc non, honnêtement, ça fait plaisir. On rappelle que la Roma, l'année dernière, avait quand même gagné la Conference League. Alors certes, c'est la C4, mais ça reste quand même un trophée européen. Donc, on voulait avoir une bonne occasion de revenir. Et quoi de mieux que 6 clubs européens dont prend les champions en quart de finale pour revenir en force, mon cher Johan.
Alors Guillaume, je te propose de commencer par le premier club italien qui sera en lice.
Ouais.
C'est donc la semaine prochaine. Benfica Inter, donc ça sera le mardi à 20h45 évidemment. Mon cher Guillaume, il y a une
Comment
vraie question.
Comment tu vois ce match ?
Mais en fait, il y a surtout une question, c'est quel Inter on aura ? Est-ce qu'on aura l'Inter conquérant de pas mal de matchs de première partie de saison, y compris en phase de groupe de Ligue des Champions, il y a eu des choses intéressantes. Allez, on va même pousser jusqu'au match contre le Napoli, qui était tout début 2023.
Ouais.
Où est-ce qu'on aura l'Inter attentiste des dernières semaines, qui est au-delà même de son approche des matchs, qui est assez catastrophique en fait.
Écoute, j'ai envie de croire qu'on aura l'Inter des grands matchs. On sait que sur un match sec, bon, en l'occurrence deux, l'Inter est capable de sortir ce genre de prestations. Alors, on s'en souvient contre Porto, à la fin du match, ça avait été compliqué, mais ouais. Globalement quand même, bon, disons que l'Inter s'en était sorti tant bien que mal. Bon, c'est vrai que quand même les trois dernières minutes, ça avait été très compliqué. Mais en tout cas, j'ose espérer, parce que j'ai quand même le sentiment qu'à Milan, alors que ce soit du côté de l'Inter ou de l'AC Milan, on en parlera après, il y a quand même une grande attente. Et il y a vraiment la sensation, tu sais, Johan, que, bah, que tout le monde y croit. Parce que la partie tableau, quand même, est faisable, évidemment. L'adversaire est coriace. C'est inutile de le dire, mais Benfica est un adversaire coriace, dur, ça va être difficile. Mais c'est certain qu'en quart de finale de Ligue des Champions, déjà éviter, on va dire, les gros cas d'or. Moi, tu vois, même pour le club italien, je voulais vraiment éviter, tu vois, les équipes comme, bah, comme City, par exemple, vraiment éviter, on va dire, les très grosses équipes pour avoir au moins une chance. Et c'est certain que l'Inter face à Benfica a une chance. Mais par contre, quand je vois Benfica, le jeu proposé, que ce soit même dans le championnat du Portugal, la série de victoires, la façon d'interpréter même les matchs avec des champions, honnêtement, on rappelle qu'ils étaient sortis premiers de leur poule, dans la poule du PSG d'ailleurs. C'est certain que si l'Inter n'est pas l'Inter des grands soirs, comme on l'a vu contre Naples, comme tu l'as souligné en tout début janvier, ce sera très difficile. Par contre, si l'Inter est sérieuse, appliquée, bah, que des joueurs aussi, comme Lautaro, par exemple, on le sait, il vit une période assez difficile, il ne marque pas de l'image. Donc, il faudra que tout le monde soit au rendez-vous. Inzaghi aussi, il faudra qu'il ait des choix, évidemment, on va dire logiques, qu'il prépare bien son match. Mais en tout cas, si l'Inter est l'Inter qu'on connaît d'habitude dans les grands matchs, il y a clairement une carte à jouer. Par contre, si c'est l'Inter qu'on voit trop souvent cette année, avec 10 défaites déjà en championnat, ce sera évidemment très compliqué. Toi, je ne sais pas comment tu vois ce match plus globalement.
Moi, en fait, la double confrontation contre Porto m'a pas mal refroidi.
Ouais.
Je les ai trouvés vraiment. Alors, au match aller, un peu moins. Je trouve qu'il y a eu des phases qui étaient plus maîtrisées au match aller. Mais au match aller, on peut aussi se rappeler que si Otavio n'est pas expulsé, il y a quand même de grandes chances que c'est une supposition, hein, mais que le match finisse à 0-0 et non pas à 1-0. Le match retour, pour moi, il a été catastrophique de A à Z, dans l'approche du match, dans la réalisation technique individuelle, technique collective, dans la réalisation tactique, parce qu'ils ont été extrêmement bousculés, et que sans 1, 2, 3, 4 miracles en fin de match, on parle sans doute pas de l'Inter en quart de finale de Ligue des Champions. Ce qui est inquiétant aussi, je trouve, c'est que je vois pas beaucoup de... Enfin, je vois pas, à la fois chez l'entraîneur, à la fois chez les joueurs, je vois pas de réaction majeure après des moments compliqués. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à se sortir de moments un peu difficiles. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui se laissent aller à un certain fatalisme au cours des matchs. Bon, bah, on y arrive pas, bon, bah, on y arrive pas. Où ils perdent un peu, plus que perdre confiance, c'est... Je trouve qu'ils perdent en volonté de se dépasser pour aller chercher le résultat. Et ça, ça me gêne un peu plus. Au-delà même des cas individuels, on pourra en parler, hein, mais de Lautaro qui met plus un but, de Barella qui a un niveau très inférieur à la première partie de saison, et d'autres joueurs, Bastoni qui est pas bien, mais en même temps c'est lié aussi à une charnière centrale qui est, on va dire comment, en désordre avec l'absence de Skriniar. Donc finalement, il y a quand même assez peu de points positifs, je trouve, avant ce match-là, d'autant plus que, évidemment que je suis comme toi et que j'espérais que l'Inter ne prendrait pas un gros, quoi, entre guillemets, éviterait les City, les Real, les Bayern, etc., les clubs qu'habituellement l'Inter prend, ou que les clubs italiens prennent. Mais quand je vois Benfica, la force de frappe offensive, c'est quand même l'équipe qui a marqué le plus de buts, enfin, derrière le Napoli, hein, en Ligue des Champions cette saison. Donc devant des Manchester City, devant des Bayern, devant des Real. En ayant joué, on se souvient quand même, la Juve, le Paris Saint-Germain, en phase de groupe. Alors le match contre Bruges était plus à leur portée, mais j'ai pas mal d'inquiétudes quand je vois l'état de la phase défensive de l'Inter et de l'autre côté l'état très positif des phases de construction et des phases offensives du Benfica. Avec l'intensité que le Benfica met, parce que c'est ça aussi, je t'avoue que moi, je suis pas très optimiste.
Non, je comprends. Et surtout, Johan, on peut aussi dire que c'est une équipe qui est assez nerveuse.
Ah bah, totalement.
Depuis quelques temps. Alors évidemment, la spirale, on le sait, est plutôt négative et que la période est compliquée. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup de... Voilà, Inzaghi, on le sait, est très critiqué. Donc, la période n'est pas, on le sait, pas bonne et la dynamique ne l'est pas non plus pour l'Inter avant ce match face à Benfica, qu'importe le résultat face à Salerne, mais c'est évident que quand je vois des... Alors tu vois, Barella qui est un joueur exceptionnel, même voilà, si on le sait, il vit une période assez difficile sur le terrain, mais alors, globalement, il a quand même été globalement nerveux, ça a toujours été, mais c'est vrai que ces derniers temps, je vois vraiment une équipe, et Barella en primis, qui est vraiment très, très nerveuse. Et dans ce genre de match-là, où on le sait, ça va se jouer sur des épisodes, sur des détails. Au match aller contre Porto, tu l'as souligné, il y a eu ces arrêts de Nana, ce triple arrêt, et après l'expulsion d'Ottavio qui a aidé à la victoire finale. Mais c'est vrai que sans l'expulsion, je ne suis pas certain que l'Inter aurait arraché cette victoire. Au retour, ça se joue aussi sur le fameux épisode dans le temps additionnel. Donc, ces matchs-là se jouent sur les détails. Il faudrait une équipe avec du sang-froid, avec la tête froide, et une équipe qui est prête à affronter ce genre de rendez-vous en Ligue des Champions. L'Inter est quand même sorti d'une poule avec le Bayern et le Barça. Et alors, contre le Bayern, ça a été évidemment difficile. Le Barça, ça a été mieux. Mais c'est certain que si l'Inter, en tout cas, n'est pas capable de produire le jeu qu'on a pu voir parfois dans l'ère Inzaghi, cette saison, c'est beaucoup trop rare, à part dans les grands rendez-vous. Et tu sais, Yann, il y a aussi beaucoup de joueurs en fin de contrat. Et j'ai l'impression que certains, quand même, tu vois, le prennent un peu par-dessus la jambe, dans le sens où, de toute façon, il y en a qui, voilà, ils savent très bien que l'année prochaine, ils ne seront plus là. Et tu sens quand même un manque d'engagement, un manque d'attachement et beaucoup de nervosité. Donc, j'ose espérer que le match, on va dire, tumultueux contre la Juve, on va dire, a un peu resserré les rangs. J'ai vu quand même des scènes, on va dire, d'une équipe qui s'est ressoudée après le pénalty de Lukaku, au-delà de tous les épisodes. Mais voilà, j'ose espérer que ce match...
C'est très fragile encore, je trouve.
Oui, évidemment. Mais tu vois, un peu dans les espèces de célébrations, j'ai quand même vu... Tu vois, si l'Inter n'est pas du contre la Juve, alors on enregistre avant Salerne, mais si vraiment la spirale continue avec une défaite, ça aurait fait 4 toutes compétitions confondues sur les derniers matchs. Ça aurait été compliqué. Là, c'est évidemment très délicat et c'est un peu une espèce de funambule sur une corde très fine. Mais disons qu'au moins, voilà, si la spirale peut s'arrêter avant Benfica, ce serait quand même de bon augure et surtout, essayer de repartir avec un bon résultat de Lisbonne, ce qui serait déjà quand même une bonne chose parce que la puissance offensive du Benfica cette année, quand même, fait très peur et la fragilité de l'Inter, qu'elle soit mentale ou défensive, fait encore plus peur cette année.
Moi, j'ai vraiment l'impression que, à tout moment, la moindre petite étincelle peut refaire exploser tout le groupe, l'entente, etc. Moi, je vois des scènes, t'as parlé de Barella, là, évidemment.
Oui, oui.
C'est un témoin clé parce que il est insupportable en ce moment, clairement. Vraiment, il faut le dire. Il est extrêmement protégé dans la presse italienne parce que c'est un international italien, qu'il est très apprécié, etc. Mais ce qu'on voit de lui sur le terrain, c'est insupportable. On voit une très grande nervosité avec d'autres joueurs. Souviens-toi, c'était contre Porto, Onana et Dzeko, je crois, de mémoire.
Oui.
On a vu avant que Skriniar ne puisse plus jouer, un Skriniar aussi nerveux. On voit un Çalhanoğlu qui parfois est très en colère avec auprès de ses coéquipiers.
Lukaku Barella aussi.
Lukaku Barella, même Lukaku lors du dernier match avec Dumfries, qui l'a bien pourri. Enfin, le dernier match, pas le match contre la Juve et le match de championnat que j'ai plus en tête.
Contre la Fio.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tu sais, Dumfries fait plusieurs mauvais choix à un moment donné sur des centres. Où,
oui.
Et Lukaku, à un moment donné, l'a pourri, quoi. Donc, je me dis que le moindre truc qui ne va pas aller dans la double confrontation, on n'est pas à l'abri que ça soit à nouveau l'hystérie totale sur le terrain. Et cette absence de sérénité-là, dans les grands rendez-vous, C'est pas un facteur positif pour un club qui doit avoir des résultats et qui doit viser la demi-finale de Ligue des Champions. Ça veut pas dire qu'ils le feront pas, hein, et je le souhaite même, clairement, mais je trouve que, à la fois dans l'état d'esprit, à la fois dans le jeu, à la fois dans la mentalité, à la fois dans l'approche des matchs, à la fois le côté entraîneur, le côté joueur, je trouve qu'il y a quand même pas grand chose de positif ces dernières semaines, du côté de l'Inter, à tel point que, bah, en championnat, tu vois, tout le monde disait, bon, bah, ça sera Napoli 1, en gros Inter 2, et après qui sera le 3-4, tu vois. Bah, là, aujourd'hui, on est en train de se dire, il existe une vraie possibilité pour que l'Inter soit pas dans les 4 premiers la saison prochaine.
Ce qui serait une catastrophe.
Bah, total.
Pour le club, pour les économies. Moi, quand j'ai feuilleté la presse la semaine dernière, c'était clairement le scénario catastrophe qui était écrit pour Zhang, parce qu'on le sait, hein, il y a un gros prêt qui a été contracté auprès d'Octree, il y a des finances qui sont en délicatesse, donc forcément, et c'est quelque chose qui n'a pas été envisagé du tout, tu l'as justement dit, dans les plans initiaux de l'Inter qui visait le titre et qui l'a perdu l'année dernière de 1 face à son grand rival, et cette année qui n'a quasiment jamais été en mesure d'inquiéter le Napoli, donc c'est une saison très compliquée, et alors, on verra bien la suite en Ligue des Champions, en Coupe d'Italie, mais moi, tu vois, je parle avec beaucoup sur Twitter de l'Inter. J'ai plusieurs podcasts aussi avec des tifosi qui m'ont demandé, mais et même moi, je leur ai demandé, mais qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour qu'Inzaghi reste ? Parce qu'on parlait de sérénité, mais Inzaghi ne dégage pas plus. Mmh. Et même dans, tu vois, alors Inzaghi, bah, c'est un entraîneur en soi que bah, toi comme moi, je pense qu'on apprécie sur plusieurs choses. Mais tu vois, par exemple, je trouve quand même que même sur le banc, lui dégage très peu de sérénité, rien qu'avec son attitude. Il a toujours été, on le sait, très actif, on va dire, dans sa zone, pour le peu de fois où il y est d'ailleurs. Mais c'est quelqu'un qui est toujours assez nerveux et qui, même dans sa communication aujourd'hui, en conférence de presse avant et après match, pour moi, une communication assez, assez désastreuse. Même dans ses justifications après match, après les défaites, c'est des explications assez simplistes. Il parle très rarement de tactique. Donc vraiment, voilà, la sérénité, elle devrait venir du banc, de la direction aussi. Ça fait longtemps quand même, Johan, qu'on n'a pas entendu Marotta parler. La dernière fois, c'était il y a quelques semaines quand même aujourd'hui. Donc, on sent quand même qu'il y a peu de sérénité à tous les niveaux. Et forcément, après, l'équipe le reçoit. Et tu parlais des joueurs nerveux. Moi, je me rappelle contre la FIO le week-end dernier, à Lautaro, au bout de 10-15 minutes, qui s'était montré très nerveux sur un appel où il avait perçu le ballon. Donc, vraiment, on sent quand même que oui, il y a très peu de sérénité. Et malheureusement, si cette équipe est aussi nerveuse en quart de finale, ça va être assez compliqué quand même d'espérer la qualification. Alors qu'en soi, évidemment, l'Inter, la grande Inter, si elle est à son maximum, elle peut évidemment passer. Par contre, si c'est l'Inter qu'on voit trop souvent cette saison, pour moi, ça va être trop compliqué. Mais je te retourne la question justement, est-ce que pour toi… Alors, un supporter de l'Inter me disait la dernière fois, à 99,9%, pour nous, les supporters, Inzaghi partira dans tous les cas. Et pour toi, Yann, si je te demande le pourcentage, à ton avis, à la Galliani, à ton avis, à quel pourcentage Inzaghi va rester sur le bord de l'Inter la saison prochaine ?
C'est une bonne question.
C'est compliqué.
Moi, je pense que si les supporters font d'Inzaghi un bouc émissaire, ils n'ont pas compris grand chose à la situation de leur club, je pense. Évidemment que Inzaghi ne fait pas tout bien, que ses changements sont exaspérants. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je trouve les joueurs tout aussi exaspérants. Le truc de oui, mais Inzaghi avec son 3-5-2, immuable, etc. Enfin. Honnêtement, si les problèmes de l'Inter cette saison, c'était un schéma tactique, je crois qu'on le saurait. Moi, j'ai envie de leur demander, quand je vois les performances de l'Inter, si se présenter avec une charnière centrale Darmian, Acerbi, Bastoni, c'est digne d'une équipe qui joue le Scudetto.
Alors, et en plus, Acerbi est quasiment l'un des meilleurs défenseurs cette saison. Mmh. Mine de
et rien. On en revient d'ailleurs au choix, parce que il faudra aussi parler des choix qui ont été faits cet été. Le fait de tout mettre sur Lukaku, par exemple. Le fait de finalement abandonner la piste Bremer que tu avais en main pour continuer avec Skriniar, dont tu savais quelle était la situation contractuelle, et que Marotta venait sur les plateaux télé, semaine après semaine, nous dire « Non mais moi je suis confiant, non mais il y a une confiance totale, il n'y a pas de problème, on est confiant, ça va se faire. » Finalement ça se fait pas. Et aujourd'hui tu te retrouves avec un Skriniar qui est blessé, et une charnière qui est digne d'un 8e de Serie A. Voilà, ni plus ni moins, ou qu'un 6e, sans trop exagérer, qu'un 5e si vous voulez. Mais pour moi c'est pas une charnière de top 4. Et tous ces choix-là que tu as accumulés, le fait de vouloir vieillir l'effectif, parce que si on se replonge sur le mercato l'année dernière, Kitarian, Lukaku,
Acerbi,
il m'en manque peut-être, mais je ne l'ai pas forcément en tête, ça a été une volonté aussi de vieillir l'effectif, de le renforcer en expérience. Peut-être qu'il fallait des joueurs qui courent plus, peut-être qu'il fallait des joueurs qui ont plus faim. Peut-être qu'il fallait des joueurs qui soient capables de mettre beaucoup plus d'intensité, parce que c'est aussi un des problèmes de l'Inter en 2023. Je trouve qu'ils jouent dans un fauteuil, et que pour mettre de l'intensité, c'est beaucoup plus difficile, avec des joueurs qui sont en difficulté pour en mettre. Donc, évidemment que Inzaghi fait partie de la mauvaise saison de l'Inter jusqu'à présent,
mais c'est pas l'unique coupable.
Bah, clairement pas.
Mais du coup, l'été prochain, quand même, pourrait être un nouveau point de départ, dans le sens où t'as quand même plus d'une dizaine de joueurs en fin de contrat. C'est peut-être l'occasion aussi de repartir, tu le disais, avec plus d'intensité, avec des profils un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques.
Oui, mais tu mets qui ? Parce que moi je veux bien le retour de Conte, mais quand tu vois... Au-delà du Scudetto qu'il a gagné, qui est un point essentiel, clairement. Quand tu vois la pression qu'il a mise sur ses dirigeants pendant 2 ans, où parfois ça a été à la limite de l'insubordination, à la limite de l'insulte devant les caméras, et si les dirigeants aujourd'hui se recouchent devant Conte, bah tu vois, moi je serais supporter de l'Inter, je me dirais, ouais, il y a peut-être un niveau au problème de l'institution.
Hey Johan, mais rappelons aussi qu'il est passé avec un gros chèque. Hein.
Ouais, oui, bien sûr.
Un chèque de quasiment 8 millions d'euros.
Bien sûr.
C'était il y a 2 ans, c'était pas il y a 10 ans. Moi, je parlais pas forcément, tu vois, de l'entraîneur. Hein. Je parlais plutôt avec du joueur en fin de contrat, mais tu vois, renouveler un peu l'effectif, lui donner un coup de frais. Mais c'est sûr que reprendre Conte, pour le coup, alors évidemment, en superficie, je peux comprendre, disons, l'idée de recommencer à gagner, je vois le profil un peu de général, mais par contre, au niveau de ce qui s'est passé pendant 2 ans, où on le sait de toute façon, Conte à son caractère, de toute façon, on l'a encore vu à Tottenham, c'est encore mal fini, et avec l'Inter, quand même, il a quitté le navire quand il a commencé à tanguer.
Guillaume, Conte, il veut des joueurs ? Avec quel argent ?
Mais bien sûr, et surtout, Johan, il ne voudra pas des jeunes joueurs. Ouais. On connaît très bien le profil de joueur qu'il souhaitera. On se rappelle des mercatos qui ont été faits durant son passage sur le banc de l'Inter. Donc,
les Ashley Young, les Victor Moses.
Les Vidal. Les Vidal, bien sûr. Donc, c'est évident que moi, vraiment, je pense que pour l'Inter, alors, et là, je ne parle vraiment pas d'Inzaghi, c'est peut-être le moment de voir toi, des profils un peu plus jeunes, un peu plus dynamiques. Qu'importe l'entraîneur, mais si tu repars avec Conte, tu es reparti quand même sur un projet très court-termiste, hein, de 2-3 ans, sans une grande vision d'avenir. Donc honnêtement, je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, globalement, je suis quand même assez d'accord avec toi sur le fait que Inzaghi n'est pas le seul coupable. Il fait partie évidemment des coupables, mais pas le seul. Par contre, je pense que l'été prochain, ce sera aussi le moment, tu vois, même Dzeko, ce sera aussi le moment de remercier, mais de dire au revoir à plein de joueurs qui ont passé la trentaine ou qui flirtent avec la trentaine et recommencer quand même un nouveau projet, un nouveau schéma, surtout après que malheureusement tu sais toujours pas si le club sera vendu un jour ou l'autre, parce que Zhang quand même reste assez mystérieux sur la suite à donner au projet de Suning. Donc il y a quand même beaucoup d'interrogations à tous les niveaux, entraîneurs, propriétaires, dirigeants, joueurs. Donc c'est certain que voilà, pour l'Inter, il y a un énorme chantier qui arrive, et reprendre Conte en chef de chantier. Mais globalement, Johan, je ne sais pas si les tifosi vraiment, et d'ailleurs je les invite à réagir au podcast, même sur Twitter, à nous envoyer leurs réactions, et je ne suis pas certain que tous souhaite vraiment le retour de Conte. J'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, surtout de la manière dont il est parti. Donc, je ne suis pas certain que ce soit vraiment, vraiment ce qu'il soit souhaité. Et surtout le salaire, il va aussi de Conte.
Hein. Bien sûr. Et puis l'autre option, c'est de Zerbi. Mais il ne faut jamais oublier une chose avec de Zerbi. Et moi, il me l'avait dit dans l'interview que j'ai fait avec lui.
Que tu connais quand même. Que tu connais,
oui. Mais ouais. Il s'en fout du blason du club, en fait. Il ne faut surtout pas que les supporters de l'Inter pensent on est l'Inter, donc De Zerbi aura envie de venir chez nous. C'est pas comme ça que De Zerbi marche. Il est en train de construire quelque chose à Brighton qui est très important. Même s'il y a des frictions sur le recrutement, etc., il s'inscrit dans la durée. Est-ce que aujourd'hui, je le dis clairement, ça peut paraître un peu bizarre, tu vois, mais est-ce qu'aujourd'hui, quand t'es De Zerbi, avec ce que t'es en train de faire à Brighton, est-ce que pour toi, c'est un pas en avant d'aller à l'Inter qui doit tout reconstruire?
Non, absolument pas. Et surtout, j'ai lu son interview, et je pense que tu l'as fait aussi récemment, je crois que c'était dans le collège de la Selle, où il disait que lui, il était comme un gamin en première ligue.
Ouais.
Qui a la façon de pouvoir travailler sans pression, sans critique. Tu as vu ses déclarations sur les 66 millions d'entraîneurs en Italie. Lui, vraiment, en première ligue, j'ai l'impression qu'il y a eu une espèce de coup de foudre où lui, il se plaît, où il est heureux, il y a de la patience. Donc, arracher des derniers aujourd'hui à Brighton, c'est pas évident. Et surtout, aujourd'hui, l'Inter, ils sont quand même un bourbier. Si tu lui offres pas un projet clair, serein, que tu lui promets de la patience, que je suis pas certain qu'aujourd'hui De Zerbi soit tenté par un retour globalement en Italie, un peu uniquement à l'Inter, mais je le vois pas aujourd'hui.
On est d'accord.
Poussé pour revenir en Italie. Hein.
On est d'accord, mon cher Guillaume. On va passer au deuxième match.
Ouais.
On n'est pas super optimiste pour l'Inter, mais évidemment qu'on espère qu'ils passeront. Mais c'est vrai que si on se base sur ce qu'on voit depuis quand même quelques semaines, c'est quand même pas génial du côté de l'Inter. Guillaume, on va passer au deuxième match de Ligue des Champions et là, 100% italien évidemment, le Milan et le Napoli. Milan-Napoli, ce sera donc le mercredi. Est-ce que t'es d'accord avec moi pour dire que le match du championnat qu'on vient de voir, qui a eu lieu il y a 5 jours maintenant, on enregistre, on est vendredi 7 avril, a redonné finalement du peps et du suspense à ce quart de finale de Ligue des Champions.
Évidemment, bien sûr, dans le sens où avant ce match-là et cette claque, on va dire même une leçon hein, du Milan à Naples, honnêtement, à Milan, il y avait quand même très peu d'optimisme. Je m'entends dans le sens où, évidemment, c'est un quart qui est jouable sur le papier, mais on va dire que ça aurait été très difficile quand même pour Milan face à ce Napoli-là, mais de gagner à Naples de cette manière-là, forcément, ça donne déjà à tout l'environnement un regain de confiance dans une saison qui est aussi compliquée hein, pour Milan. Et forcément, ça prouve que quand Milan s'applique, que les joueurs sont à 100%, parce que cette saison, c'est un peu le problème du Milan, c'est que les joueurs choisissent un peu leur match. Moi, j'ai l'impression, Evan, tu sais, qu'ils ont fait un peu le voyage en avion Londres quand ils ont décroché la qualif contre Tottenham. Ils n'ont pas atterri à Milan contre Salerne, où ils avaient fait 1. Ils ne sont pas à la Udine, où ils ont perdu 3-1, mais ils sont directement à Naples. Ils ont fait Londres-Naples, et parce que c'est les deux derniers gros matchs où vraiment ils ont été. En fait, quand l'enjeu le requiert et quand plus personne ne les attend, et Léo l'a très bien dit après le match, tu sens quand même que c'est un club et une équipe, comme la fin de saison dernière où personne n'y croyait, et où l'équipe s'est ressoudée pour aller chercher un titre quand même qui était assez improbable en début de saison. Quand elle est décrite, cette équipe-là, elle sait toujours sortir quelque chose en plus. Et Stefano Pioli en prémisse, où il a tout maîtrisé à Naples et tout ce qu'il a proposé s'est transformé en victoire et en leçon face à Spalletti. Mais en tout cas, c'est évident que cette victoire-là, à ce moment-là, à une dizaine de jours d'une double confrontation, de gagner de cette manière-là, c'est forcément un grand vol de confiance pour toute une équipe. Après, tu vois, l'effet inverse, je pense aussi que pour Naples, ça peut être... Ça peut faire un peu une piqûre de rappel en disant si on joue comme ça un peu en dilettante entre guillemets, parce que bon, Naples, on le sait, avec plus d'une vingtaine de points d'avance et que le Scudetto n'est plus qu'une question de temps, que si Naples ne joue pas à 100% non plus, cette double confrontation-là, elle sera assez compliquée. Mais en tout cas, pour Milan, c'est évidemment, on va dire, de bon augure dans le sens où en Ligue des Champions, on le sait, il n'y aura pas 20 points d'écart, ça va jouer sur 180 minutes et si Milan. disons, fait du Milan de la saison dernière, bah, y a clairement une possibilité pour que Milan passe. Mais en tout cas, voilà, c'est à l'effet inverse, tu vois, Johan, je ne sais pas si d'accord, je pense que pour Naples aussi, ça peut être bénéfique dans le sens où voilà, ils ont pris une grosse claque et ça peut quand même leur servir même pour ce double match.
Est-ce que tu sais, Guillaume, quel est le point commun entre la série de 4 victoires, donc contre le Torino, le match aller contre Tottenham, le match contre Monza, le match contre l'Atalanta, le match retour contre Tottenham et le match contre le Napoli. Au-delà qui est du fait qu'il y ait 5 victoires et un match nul, il y a un point commun dans tous ces matchs.
Alors écoute, ça fait beaucoup de matchs. Écoute, là, comme ça, tu me prends de court, mais tu vas me le dire et tu vas nous le dire.
Et bien, sur ces matchs, Milan a eu moins le ballon que son adversaire.
C'est intéressant.
Et sur les 3 matchs négatifs, Fiorentina, Salernitana, Udinese, Milan avait nettement plus le ballon que son adversaire.
Alors, est-ce que tu incites Milan à laisser la possession à Naples
De toute façon, je pense que c'est ce qu'on verra. Parce que Naples a cette volonté-là de prendre le ballon et de faire la différence avec le ballon. Donc, ce ne sera pas une grande surprise si on voit effectivement que le Napoli a la possession contre le Milan. Mais je sais pas, ça dit quelque chose aussi un peu de la transformation de ce Milan-là par rapport à la saison passée, qui était beaucoup plus proactif. Mais ça va avec la confiance aussi, ça marche aussi avec la confiance, je pense. Et avec le choix qui a été fait par Pioli aussi après les... Il y a eu combien? 4 défaites d'affilée? 5?
Oui, il y avait Sassuolo, il y avait eu Lazio, il y avait eu Inter, il y avait eu une paire en janvier.
Ouais, je crois qu'il y avait eu 4 défaites d'affilée, je crois, il me semble. Mm-hmm. Après les 4 défaites d'affilée, il avait fait un choix clair. Il avait fait d'ailleurs dès le match contre l'Inter qui avait été perdu. Le match, je parle de championnat. C'était la défense à 3. La défense à 3, avec le fait de réaxer les AO, on a vu que finalement, ce que tu avais gagné, on va dire, dans ton approche des phases défensives, tu l'avais perdu sur le plan offensif, parce que t'avais détruit ton couloir gauche, Théo Léao, qui est clairement le point très fort du Milan depuis maintenant de nombreux mois. Contre le Napoli, il est revenu à une défense à 4, avec un milieu à 3. Milieu à 3, pointe haute, puisque Bennacer est allé chasser les chevilles de Lobotka en permanence.
Un marquage à l'ancienne.
Hein. Exactement, mais qui est très intéressant et que Pioli avait raté plusieurs fois. Hein. Souviens-toi, c'était quel derby? Un derby, tu sais, où il a mis caissier sur Brozovic.
Oui, c'est exact.
De mémoire, ça s'était pas bien passé dans le jeu et je me souviens même de Sacchi le lendemain qui avait démonté Pioli en disant... En gros, il faut arrêter de vouloir faire de la tactique pour faire déjouer son adversaire, mais plutôt faire de la tactique pour imposer quelque chose à son adversaire. En gros, c'est quelque chose comme ça. Et moi, j'ai aimé ce que j'ai vu de la configuration du Milan. Je trouve que les joueurs sont à leur poste, ce qui était plus trop le cas dernièrement. Je trouve qu'on a retrouvé des certitudes, effectivement. Que Léao est quand même plus à l'aise. Et alors là, en plus, la configuration de la transition lui allait parfaitement, ça c'est clair. Mais j'ai vu des choses... J'ai vu presque un retour à la normale sur certaines phases de jeu. Est-ce que ça va durer? On verra. Je pense qu'il faut pas accorder une si grande importance... Il faut lui donner de l'importance, pas une si grande importance que ça au 4-0. Moi, j'accorde plus d'importance à ce que j'ai vu sur le terrain au-delà des buts que de la victoire 4-0. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Si, évidemment.
Je trouve que la prestation, le comportement des joueurs, les choix de Pioli, l'approche du match, le caractère montré, la volonté d'aller marquer des buts toujours plus, etc. Je trouve ça plus important que le 4-0 final.
Mais il y a eu un sursaut d'orgueil quand même parce que tu l'as vu Giroud, on a vu Salamaker, tu sais montrer le scudetto après les buts.
Ouais.
Dans le sens où voilà. Je pense, comme Léo l'a dit, qu'ils avaient entendu les critiques, que soi-disant à Naples, bon, même si ça n'a pas été le cas de ce qu'on m'a dit, mais voilà, il y a eu quand même une sorte d'euphorie le fait de tirer Milan en quart de finale des champions. Donc il y avait quand même un sursaut d'orgueil. Et tu sais, moi, je pense que Zlatan l'a très bien résumé après le match face à l'Udinese quand Milan avait perdu avant la trêve, où il avait dit « Ce Milan-là était prêt à gagner le titre, mais il n'était pas prêt à le défendre.
Ouais. »
Et je trouve que ça résume très bien la saison, dans le sens où l'année dernière, c'est une équipe qui allait chercher un scudetto voilà, qui était pas envisagé, mais c'est une équipe qui s'est ressoudée, qui était le chercher parce que personne n'y croyait, mais que cette saison, dans une nouvelle configuration, dans une nouvelle posture de champion, c'est une équipe qui n'a pas été prête, qui n'a pas mangé chaque centimètre, qui n'a pas... Et on l'a vu très rapidement, déjà en début de saison, Johan, il y avait des victoires à l'arraché et à la fin de... À la fin du mondial, à la reprise, à part cette victoire à Salerne qui avait un peu masqué au tout début janvier, après ça a été assez compliqué après le 2-2 contre la Roma. Donc voilà, c'est une équipe qui n'était pas prête à défendre son titre et qui, tu sais, avait un peu la sensation de pain de chapienne. Tu sais, elle avait gagné le titre, du coup, elle avait le ventre plein comme on est en Italie.
Mais tu ne trouves pas qu'on l'a moins vu en première partie de saison, ça, quand même?
Si, parce que comme l'équipe, si tu veux, est un peu sur la lancée d'être champion, je pense que tu le voyais moins. Par contre, Tonali, après le match à Bergame, contre l'Atalante, après la deuxième journée, avait dit mais il y a quelque chose quand même dans le vestiaire où il va falloir qu'on se ressoude un peu. Et quand tu dis ça dès la deuxième journée, quand même, il y avait un... Toi, Tonali, quand même, on le sait, voilà, il ressent beaucoup les choses parce qu'on le sait, c'est un supporter voilà, qui est sur le terrain. Mais il avait quand même lancé un premier signal d'alarme. Et bon, visiblement, il n'avait pas été très écouté. Mais je me souviens, rappelle-toi des victoires à l'arraché contre Empoli, contre Spezia, contre Vérone, contre... Donc ça avait toujours très limite contre la Fiorentina juste avant la trêve et c'était passé à chaque fois ray-crack. Et c'est vrai que cette deuxième partie de saison où vraiment il y a eu un passage à vide incroyable en janvier, les défaites 5-2 contre Sassuolo, le 3-0 en Supercoupe, le 4-0 contre la Lazio, il y a eu quand même eu un moment où l'équipe ne répondait plus. Pioli avait été quand même assez critiqué, il est toujours un peu d'ailleurs, mais en tout cas, bon, prouvait que quand l'équipe et quand Pioli, on va dire, a les idées claires et que l'équipe, on va dire, a du répondant et qu'il y a ce sursaut d'orgueil-là, comme on l'a vu à Naples, c'est une équipe qui aujourd'hui peut battre n'importe qui. Et le problème, c'est qu'elle a eu trop peu cette saison. Mais en tout cas, à Naples, oui, j'ai vu une équipe évidemment qui a retrouvé les automatismes dans le 4-2-3-1, mais surtout, j'ai vu vraiment une équipe qui a eu ce sursaut d'orgueil pour montrer aux futurs champions que leur victoire la saison dernière n'avait pas été anodine. Mais quand tu penses, en fait, quand tu penses à l'équipe que tu as vue contre l'Udinese avant la trêve, et l'équipe que tu vois à Naples au retour, il n'y a strictement aucun lien entre les deux. Donc, c'est assez dingue de voir comment une équipe peut avoir du visage. Mais je pense que Zlatan avait très bien résumé après la défaite à Udine.
Je pense que je crois moins à cette hypothèse que toi. Ça ne veut pas dire que j'y crois pas du tout. Hein. Mais non, l'histoire de la panne chapienne, ça veut pas dire que j'y crois pas du tout. Mais je trouve, en fait, ce qui me gêne avec ça, c'est que la première partie de saison du Milan, elle est tout à fait correcte, à la fois dans le jeu et dans les résultats. On pourrait reprendre des podcasts qu'on avait enregistrés en première partie de saison. Je pense qu'on parlait pas de ce phénomène-là à ce moment-là.
Il y a eu cette victoire dans le derby, je te rappelle aussi. Hein,
Ouais. Ils étaient capables, tout à fait capables de s'arracher dans des matchs, d'aller gagner, etc., etc. Donc, je crois plus à la théorie de c'est un moment difficile et les joueurs ont pas réussi à le surmonter ensemble et peut-être qu'ils n'avaient pas forcément le caractère pour se sortir de cette passe-là parce que finalement l'année dernière tout a bien marché. De A à Z quasiment. Et là, peut-être qu'à un moment plus difficile, ils avaient peut-être pas encore connu ça collectivement. Je crois plus à ça que au côté, ils ont perdu la faim, ce genre de truc-là. Parce que, en fait, tu vois, je regardais le classement à la 17e journée. Donc, c'est après le match contre la Roma, le fameux je mène 2-0. Et où tu. C'est pareil, hein, ce match-là. Tu surclasses la Roma. Pendant 80, je me rappelle même plus, c'était 87, 5. 88, ouais. Voilà, c'est ça. Et ensuite, tu prends deux buts, tu te demandes comment, etc. Mais je vais même prendre l'hypothèse, imagine ce match se termine à 2-0 comme il aurait dû terminer, entre guillemets. T'es à 5 points du Napoli, à ce moment-là de la saison. 10 journées plus tard, donc avant le match à Naples, tu comptes 21 points de retard sur le Napoli. C'est-à-dire qu'en 10 journées, tu as abandonné 16 points. Ce qui est colossal.
Bien sûr.
Et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à croire à cette histoire de ventre plein et on a un peu moins envie ou trucs comme ça. Parce que à la 17e journée, potentiellement, tu as 5 points du Napoli. Et 17 journées, c'est la moitié du championnat.
Je vois ce que tu veux dire, mais tu vois, je traduirais ça aussi, tu sais, par, si tu veux, la fin de semaine dernière a tellement été fatigante pour le système nerveux de tous les joueurs. On le sait, c'est dû à la clinter jusqu'à la dernière journée. Il y a peut-être eu, tu vois, une baisse de régime. Alors, certes, il y a eu des matchs où Milan, voilà, avait justifié son titre de champion début de saison, mais tu sais, contre l'Inter, moi je parlais du 3-2 tout à l'heure, mais si Maignan sort pas un arrêt incroyable, ouais, un autre sur Lautaro, ça peut vite tourner. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Après, tu vois, on parle des joueurs, il y a aussi beaucoup, on pourrait parler, alors là on n'aura pas le temps, mais on pourra en parler plus tard à la fin de la saison quand on fera un bilan général, mais tu vois, parler du mercato qui pour l'instant n'a pas apporté des résultats, et quand tu es champion, tu étais en droit aussi d'espérer que des joueurs, tu vois, comme des Decatelaere qui a encore un peu de mal, qui a encore même beaucoup de mal à éclore, comme Vranx qui est arrivé et qu'on voit plus du tout. Il y a une gestion aussi de la part de Pioli qui est discutable, hein, on pourra l'évoquer, mais c'est certain que quand tu vois Bakayoko qui est revenu, on va dire, de nulle part, Johan, il devait partir même en Turquie début février, et aujourd'hui il rentre quasiment en première solution du terrain. Voilà, c'est assez incompréhensible de pas donner plus de temps en plus à des joueurs comme Vranx qui, pour moi, pour le coup, avait montré plutôt de belles choses. Donc un joueur comme Pobé qu'on voit plus du tout. Alors bon, on enregistre avant le match contre Empoli, on le précise. Ouais. Donc, normalement, il devrait être titulaire, ou du moins il devrait jouer, donc on devrait l'avoir. Mais tu sais, c'est quand le dernier match de Pobé, Johan? C'était il y a 3 mois.
Ah ouais,
ça veut dire que depuis autant, ouais. Ça veut dire que depuis 3 mois, Pobé n'a pas joué une seconde. Et tu vois, on a une gestion quand même qui est assez... Rappelle-toi des propos de Kier aussi pendant la trêve, où il était avec le Danemark, il a dit c'est vrai que je joue plus, et en gros, je comprends pas trop pourquoi. Donc, il y a un système de rotation qui est difficilement compréhensible. Gabia, par exemple, qu'on voit plus du tout. Alors, Thio, on l'a vu, quand il a eu sa chance, il a su la saisir, mais...
Thio, il a attendu combien de temps après avoir montré des bonnes choses déjà?
Il a attendu plus d'une bonne demi de saison.
Ouais, c'est ça.
Il a commencé à jouer en février. Donc, et comme Vranx, tu vois, pourrait avoir sa chance, mais... Et Adli, on ne parle pas d'Adli, Johan, mais Adli, alors certes, on voit qu'il a eu des difficultés, mais dans les amicaux, il a toujours montré des belles choses. Il est rentré ici et là. Le dernier match où il est rentré, je crois que c'est à Florence quand Milan perd, 3-2, il me semble. Et tu vois, en fait, il y a une gestion quand même, moi, qui m'interroge beaucoup. Donc, cette année, quand même, on va dire cette saison, tout à l'heure, on parlait quand même plus des joueurs, mais il y a quand même, on va dire, plein de problèmes, un peu comme à l'Inter, tu sais. Alors, ce n'est pas les mêmes problèmes, mais disons qu'à tous les niveaux, on va dire qu'il y aura eu des erreurs qui ont été commises, des dirigeants sur le mercato, à l'entraîneur qui a eu du mal à gérer un groupe quand même, qui a connu un blackout monumental en janvier, parce que tu peux faire des passes difficiles, mais de là te prendre 5 buts à domicile ou perdre 4-0, c'était quand même un club qui a pris 9 buts en l'espace de 4 jours entre Lazio et Sassuolo. C'était difficilement compréhensible, c'est une équipe qui ne répondait plus. Donc il y a eu, voilà, il y aura beaucoup de choses à dire dans cette fin de saison-là. Mais en tout cas, pour revenir un peu avec les champions, justement, tout ce qu'on vient de dire là, ce 4-0, alors au-delà du score, comme tu l'as dit, cette performance, cette prestation livrée à Naples, quand même, peut te permettre elle va dire aux joueurs, en fait, si on joue comme ça, Milan, tu peux le faire face à Naples. Et je pense vraiment qu'au-delà du score, le fait d'avoir sorti ce match-là à Naples, au Maradona, ça va quand même donner de la confiance aux joueurs avant ce match-là. Et comme je te disais tout à l'heure, pour conclure sur Milan, il y a quand même, dans la ville de Milan, que ce soit Milan ou Inter, le sentiment que cette saison, et c'est la preuve quand même, avant le probable turnover contre Empoli, alors ce soir, désolé parce qu'on enregistre juste avant, avant le probable turnover, si Pioli fait un turnover contre Empoli, quand même, c'est que tu sens qu'il y croit justement. Et il a raison d'y croire. Hein. Mais les deux clubs, vraiment, des deux côtés de Milan, on va dire, des deux côtés du Nabil, je sens que les deux clubs pensent vraiment, peut-être à juste titre d'ailleurs, parce qu'ils sont dans la bonne partie du tableau, qu'aller en finale des champions, c'est clairement possible. La gagner, évidemment, ce sera autre chose, mais en tout cas, il y a forcément une partie du tableau qui s'est ouverte. Et voilà, pour Milan, cette victoire-là, ça va encore plus justifier ce sentiment-là.
Côté Napoli, maintenant, Guillaume, Il y a un élément clé qui est une incertitude, Victor Osimhen.
Oui.
Non pas que Naples n'est pas en capacité de gagner sans lui, on l'a vu cette saison. Il s'est d'ailleurs invaincu hein, en son absence, je crois.
Oui, 7 victoires en 8 matchs.
C'est ça.
Ouais, c'était 7 sur 7 avant Milan.
C'est ça. Simeone a montré qu'il était capable de marquer. Raspadori, qui est revenu de blessure, a montré aussi qu'il était capable de marquer. Mais il y a une chose que ces deux joueurs ne sont pas en capacité de faire, enfin il y en a plusieurs, mais une essentielle, c'est comment le dire, l'obligation qu'ont les adversaires du Napoli à se méfier de la gestion de la profondeur. Osimhen te permet, quand tu peux être en difficulté, et pas seulement quand tu es en difficulté, parce qu'ils le font même sur des phases de possession assez lentes et d'un seul coup ils verticalisent, Osimhen, il te permet d'avoir un jeu plus direct à un moment voulu, décidé, qui exalte les qualités d'Osimhen. Un, il va vite. Deux, il est puissant. Trois, il est excellent dans le jeu aérien. Et ça, malheureusement, on peut le tourner dans tous les sens, Simeone et Raspadori t'amèneront autre chose. Donc ça, c'est une vraie interrogation. Après peut-être qu'il sera pas là au match aller et là au match retour hein, par exemple. Ça c'est la première interrogation. La deuxième interrogation c'est et c'est pour ça que quelque part sans aucun parti pris j'étais content de la victoire du Milan sans même parler d'écart du score mais plus par rapproche du match parce que ça va forcer Spalletti à réfléchir, a peut-être changé des choses, l'utilisation de Lobotka, est-ce qu'il faut consommer un milieu de terrain de plus, par exemple, dans la construction du jeu, est-ce qu'il faut des ailiers plus à l'intérieur du jeu, il y a pas mal de choses qui m'intéressent maintenant que j'ai vu ce qui s'est passé en championnat, et ça je dois dire que côté Napoli, on a vu une saison quasiment sans couac, quelques petits trucs à droite à gauche, mais qui n'étaient pas de cette
dimension.
Ouais, de cette dimension, de cette teneur-là. Et donc, côté Napoli, j'ai hâte de voir ce que va nous proposer Spalletti, ce que vont faire les joueurs, comment ils vont combler ce qu'ils ont totalement raté sur les phases sans ballon, sur les transitions avec le Milan en championnat, au-delà même de la simple présence ou non-présence d'ailleurs de Victor Osimhen. Mais je trouve que cette équipe qui nous a montré tellement de choses depuis le début de la saison, là, elle est appelée à presque un nouveau miracle, en fait, de réussir à digérer ce qui s'est passé contre Milan, parce que c'est pas évident, mais de savoir analyser la défaite et de savoir prendre les fameuses contre-mesures, comme on dit en Italie, pour le match de Ligue des Champions.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mais comme tu disais, on n'a pas connu de quoi de cette ampleur-là. Donc, pour moi, ce qui va être intéressant, c'est de savoir. Je pense qu'on va avoir, tu vois, une nouvelle facette du Napoli qu'on n'avait pas encore eue cette année, parce que une défaite de cette ampleur-là, quand même, c'est une énorme claque. Alors, titre ou pas, on le sait que le titre va aller à Naples. Mais en tout cas, voilà, tu vas avoir une équipe, alors, évidemment, qui n'est pas dos au mur, mais qui va être amené forcément à envoyer un signe, à réagir à ce qui s'est passé au Maradona. Et surtout, Johan, toi quand même qui adore tout ce qui est tactique, c'est quand même un vrai jeu d'échecs. Parce que là, on a vu Pioli, on va dire, à dégainer le premier en championnat. Et d'avoir quand même 3 confrontations en l'espace de 15 jours. Et on aurait pu en avoir 5, hein, si les deux clubs avaient été en Coupe d'Italie, ce qui aurait été incroyable.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, là, on va vraiment voir deux entraîneurs face à face se répondre Voilà, du berger à l'herbe, ça va être vraiment assez, assez intéressant à voir. Donc, voir comment Spalletti va réagir à Bélasser sur le Bodka, va réagir à Krunic qui vient marquer Kvaratskhelia et les Calabria sur le couloir droit. Donc voilà, il y aura beaucoup de choses qui vont être intéressantes d'un point de vue mental aussi d'abord. Alors pour revenir sur Osimhen, Spalletti s'est montré plutôt confiant, mais est-ce que c'est du bluff? Est-ce que ça n'est pas? On rappelle qu'il n'est pas convoqué pour le match à Lecce, donc ça pourrait être de l'intox, parce qu'on sait quand même que c'est une équipe qui, sans Osimhen, forcément, change un minimum. Ça, là-dessus, il y a peu de doute, mais en tout cas, voilà, on va encore avoir une facette de ce Napoli-là. On en a eu plusieurs cette année. On l'a vu contre l'Ajax, on l'a vu contre Liverpool, on l'a vu réagir après sa défaite contre l'Inter. C'est une vraie interrogation. Pendant 2 mois, pendant la trêve liée au Mondial au Qatar, tout le monde disait en Italie, mais le Napoli va craquer, le Napoli n'a pas de mental, chaque année c'est pareil. Et le Napoli, en revenant de la trêve, perd son premier match. Donc là, tout le monde se dit, on avait raison. Et finalement, est parvenu à réagir derrière et encore plus à accentuer son écart sur la concurrence. Donc, vraiment, on va avoir quelque chose de nouveau dans ce Napoli-là. Et surtout, Spalletti, quand même, est amené à répondre, tu le disais justement, au manse, comme en Italie, de Pioli, qui, pour le coup, a frappé le premier coup et l'a gagné. Donc, comment, tu vois, je pose la question, comment Spalletti va faire pour libérer Lobotka de... Voilà, il y a des tentatives de Bennacer, comment libérer Guevara sur le couloir gauche. Il y a plein d'interrogations qui se bousculent, mais le Napoli, en tout cas, on le sait, aujourd'hui, fait partie des favoris des champions, surtout dans cette partie de tableau-là, parce que cette saison, le Napoli, quand même, dans la globalité, a montré qu'il était plus fort que l'Inter, évidemment, que le Milan, évidemment. Benfica, alors voilà, on en a parlé tout à l'heure, c'est une équipe qui est redoutable, mais le Napoli, sur un ou deux matchs, peut battre Benfica. Donc, dans cette partie de tableau-là, Johan, le Napoli est clairement le postulant à la grande finale, ce qui pourrait rendre cette saison glorieuse, déjà qu'elle est, elle est magnifique. Donc, il y aura aussi à devoir répondre à ce statut, on va dire, de plus ou moins de favori, même si à Naples, évidemment, la superstition t'amène à dire le contraire, mais disons que ce sera quand même face à Milan Alors, avec la victoire du Milan, ça sera du 55, peut-être 45. En tout cas, le Napoli part quand même un minimum favori dans ce match-là. Donc, comme tu le disais, ça va être intéressant de voir comment Naples va réagir à cette défaite un peu humiliante quand même, Johan, hein, pour le coup, on peut le dire. C'était quand même un peu humiliant pour Naples d'en prendre 4 à la maison par le champion d'Italie en titre, du moins pour le peu qu'il lui reste de temps à l'être. Mais voilà, il y a quand même une réaction qui est attendue de la part de tout le monde et surtout de la part des cadres, hein, parce que tu as des joueurs qui n'ont pas été au rendez-vous. Donc, moi aussi, j'ai hâte pour le coup de... Voilà, on a deux équipes qui arrivent de manière différente à ce match-là, mais qui de manière différente aussi vont devoir répondre à différentes attentes.
On va passer à la C3, mon cher Guillaume, à l'Europa League. Jeudi 18h45, Feyenoord, Roma.
La revanche.
Ouais, l'affiche de la finale de la Conference League de la saison passée. Avec une Roma toujours aussi irrégulière.
Belle à voir.
Non. Après, tout dépend de ce qu'on attend dans le football. Moi, j'oblige personne à avoir les mêmes attentes que moi. Mais clairement, sur ce plan-là, on est quand même très déçu de ce qu'on voit de la Roma cette saison. Une Roma qui... On a fait des caisses avec Mourinho qui allait amener une mentalité... différente, la volonté de se battre tous les jours, de ne pas se satisfaire des victoires, l'irrégularité s'est terminée. Et finalement, les joueurs en parlent beaucoup de ça aussi, de ce qu'il apporte, Mourinho, et ça me semble assez indéniable parce que les joueurs en parlent trop pour pas que ce soit vrai. Je pense notamment à une longue interview que Pellegrini avait faite à DAZN où il avait parlé de l'apport de Mourinho. Néanmoins, la Roma a raté quand même pas mal de marches à des moments cruciaux où ils pouvaient être deuxième du championnat avant le match contre Sassuolo. Enfin, après le match, ils avaient gagné, pardon. Où ils pouvaient encore une fois être deuxième, je ne sais plus quel match après.
T'as eu le match à Crémone aussi. Hein,
le fameux. Voilà, c'est, je crois que le premier, c'est celui-là où il pouvait être deuxième. Et où tu te dis, au final, tu continues à perdre des matchs clés contre des clubs qui sont supposés être plus faibles. Dans les derbies, c'est quand même pas la joie. c'est moins qu'on puisse dire. Et puis, on a surtout une équipe qui est toujours dans cette logique de la saison dernière de sous-performer devant le but. Alors, l'année dernière, tu avais Abraham qui parvenait à compenser
pas mal. C'est ce que j'allais dire.
Là, cette saison, Abraham Belotti, ça marque trop peu.
Et mais c'est Belotti n'a pas marqué d'ailleurs encore. Si je ne m'abuse,
non, Belotti n'a pas marqué encore. Donc, c'est un des problèmes de cette équipe-là de la Roma. Juste pour rappeler rapidement, pour parler rapidement du Feyenoord, que je suis aussi, évidemment, avec le championnat néerlandais. C'est une équipe qui a perdu beaucoup de cadres cet été, qu'on disait qu'elle allait être en difficulté, parce que parmi les meilleurs joueurs de la saison passée, par exemple, Senesi était parti à Bournemouth en Première Ligue, Orsnes est parti à Benfica, Sinisterra était parti à Leeds United, Dessers est venu en Serie A, il y en a d'autres. Donc en gros, le Feyenoord a perdu entre 5 et 6 titulaires de la saison passée. On va dire 5 sûrs et un sixième qui était oscillé entre titulaire et remplaçant. Finalement, c'est là où aussi on voit la force d'un entraîneur. C'est la capacité à créer un collectif malgré les ventes de joueurs. Et Arne Slot est un des meilleurs entraîneurs néerlandais du moment. Alors certes, l'Ajax réalise une saison catastrophique, donc ça les aide au championnat, mais au final, le Feyenoord est en tête, largement en tête du championnat, et qualifié en quart de finale de la Ligue Europa. Donc je pense que ce sera un match qui sera beaucoup plus dur que la finale de la Conference League, qui avait déjà été pas simple. Et cette équipe de la Roma ne donne aucune garantie, dans un sens comme dans l'autre, positivement ou négativement, sur ce qu'il peut advenir de ce quart de finale.
Mais comment tu l'expliques justement, toi, cette inconstance que tu peux voir de match en match ou selon l'adversaire, ou parfois c'est une équipe qui est capable de se sublimer, et encore. Moi, Johan, cette année, quand même rarement, j'ai vu la Roma pratiquer, tu vois, un jeu. Alors certes, on le sait, on va parvenir sur Mourinho et voilà sa façon de jouer, de voir les choses, mais tu vois, au vu du matériel disponible, à part Dybala, évidemment, qui vraiment te sublime le jeu. Tu vois, j'ai jamais vu la Roma vraiment réaliser une énorme partition, on va dire globale, cette saison en championnat, ou alors trop peu.
Oui, il y en a eu deux, trois, moi. En tête, j'ai clairement le match aller contre l'Atalanta, qui avait été largement dominé. Le match retour contre Salzbourg, qui était très bon, et on doit pouvoir en trouver un autre, mais c'est... C'est famélique par rapport à la somme des matchs. Mais moi, en fait...
Parce que c'est une inconstance qui dure depuis des années.
Ouais, mais en fait, si tu veux, ça, c'est une vision très personnelle. J'essaie de trouver les mots pour le formuler. quand tu mises aussi peu sur le football... Les moments que tu auras où la tension va caler, où la personnalité va un petit peu s'effacer, où les joueurs seront un peu plus fatigués, où il te manquera un ou deux joueurs importants, tous les défauts de cette absence de football vont ressortir. Quand tu mises sur le football, sur la création d'une valeur collective importante, dans les bons jours comme dans les mauvais jours, tu as un repère qui est essentiel, le football. Ce que tu as créé, ce que ton équipe produit, l'état d'esprit qu'elle affiche à travers le jeu. Et je pense sincèrement que cette irrégularité vient du fait de toujours tirer sur la personnalité, sur l'état d'esprit, sur l'engagement, sur... toute la sémantique du caractère, finalement, du mental d'une équipe. Et c'est en ça que Mourinho est quelqu'un de très doué, et il l'a toujours démontré. Et ben quand ça, à force de tirer là-dessus, parfois c'est dur d'être concentré pendant. Il y a quasiment aucun club qui peut être concentré pendant 50 matchs dans la saison, ou 60 matchs si tu vas loin ou pas dans une compétition. Mais les équipes qui finalement vont toujours au bout ou qui s'en sortent sont des équipes qui misent sur le jeu. Et je pense qu'aujourd'hui, le plus gros défaut de la Roma, c'est d'avoir fait un all-in sur l'expérience, le mental, la personnalité, José Mourinho, et finalement, en oubliant et en délaissant un peu trop le côté football. Ce qui fait que quand tu as un défenseur qui manque, c'est une catastrophe. Quand tu as un milieu qui manque, c'est une catastrophe. Quand Dybala manque, c'est une catastrophe.
Dybala qui manque.
Alors que dans un club de cette stature-là, avec cette masse salariale, avec des individualités aussi fortes, parce que je suis désolé, on peut le prendre dans tous les sens, des joueurs comme Ibanez, pour moi, peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Un joueur comme Dybala peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Un joueur comme Abraham peut être titulaire dans tous les clubs italiens.
Pellegrini.
Un joueur comme Pellegrini peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Un joueur comme Spinazzola peut être titulaire dans tous les clubs italiens.
Même Smalling, hein, tu sais, Smalling.
Un joueur comme Smalling peut être titulaire dans tous les clubs italiens. Donc finalement, moi, l'excuse de l'effectif, il n'est pas si fort que ça, qui est évidemment racontée par Mourinho, j'y crois pas une seconde. Et donc, pour répondre à ta question, je pense que l'irrégularité vient d'un manque de travail sur le foot.
Oui, ça me fait penser un peu, tu sais, la saison dernière, dans le rush final du Scudetto entre les deux clubs de Milan, tu avais l'AC Milan qui, dans les moments difficiles, ils en ont eu. Je me rappelle du match à Vérone où le club est venu. Il y en a eu des moments difficiles contre l'Atalanta où c'était serré jusqu'au bout, hein, où le match avait été décanté à la 60e, je crois. En fait, cette équipe-là, est comme Naples cette année, se rattache toujours au football dans les moments compliqués. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui tomberait, tu vois, d'un immeuble et qui se tient, à la rambarde, et la rambarde, c'est le football. Et ces automatismes-là, ces repères-là, c'est certain que la Roma, dans le jeu, et on l'a vu par exemple dans un match où, voilà, le plus éclatant, c'était contre Cremone qui n'avait pas gagné un match de la saison, où vraiment, c'est une équipe qui, tu sais, joue beaucoup sur la nervosité, dans la bonne comme dans la mauvaise. C'est une équipe qui est extrêmement nerveuse. Ouais. Mancini en primis à chaque match. Le sentiment, Johan, je sais que tu le connais, car tu connais bien la ville de Rome, le sentiment d'injustice permanent, que tout le monde est contre toi, que les arbitres te veulent du mal, que le système aussi te veut du mal.
Et c'est amplifié vraiment par Mourinho, ça, hein, d'ailleurs.
Exactement, exactement. Et tu vois, ça fait penser aux unes du Romanista, par exemple, où vraiment, t'as la sensation que tout le monde est contre la Roma, pardon, que personne ne veut faire gagner la Roma, et que du coup, bah, ça se joue vraiment sur une partie nerveuse. Et quand je vois cet énervement, cette agressivité pour réclamer des cartons, plutôt que de te concentrer sur le football que tu produis ou que tu veux offrir à tes supporters qui sont toujours là. Je crois qu'on est à 21 guichets fermés de suite. Bah, malheureusement, ça peut pas marcher indéfiniment et même loin de là. Donc, d'un côté de Rome, tu as quand même la Lazio, alors qu'il y a d'autres problèmes, mais qui quand même essayent de produire, on va dire, un football totalement différent, évidemment, de celui de la Roma. Et tu as la Roma qui, tu vois, c'est une équipe qui, moi, m'a longtemps été sympathique parce que je trouve que voilà, la Roma, ça a toujours été un club que moi, personnellement, j'ai toujours apprécié. Mais qui, depuis quelques saisons, tu vois, Johan, devient quasiment antipathique pour tout le monde. Tellement, tu sais, elle s'enferme vraiment dans cette bulle en mode « mais personne ne veut du bien ». Mais non, c'est pas du tout ça. C'est toi qui penses ça, c'est l'anti-système que tu disais qui est rajouté, qui est amplifié par Mourinho et qui aujourd'hui, les joueurs ont cette sensation-là que l'arbitre sera contre eux, que les cartons seront pour eux, plutôt que de penser vraiment à jouer au football. Et malheureusement, aujourd'hui, on sait quand même que le football a pris un virage, on va dire, un peu idéologique ces dernières années. Ça, c'est du football qui, quasiment aujourd'hui, n'existe plus. Et surtout, ouais, t'as le matériel pour faire mieux, quand même.
Eh oui.
Donc, c'est ça qui est assez triste.
Non, mais ça, c'est clair. Moi, cette histoire d'effectifs, parce que c'est pareil, ça fait partie des entraîneurs qui ont beaucoup gagné et qu'on doit forcément écouter, tu vois. Et c'est même pas une question de respect, c'est de se dire qu'ils ont tellement fait de bonnes choses que ça ne peut pas être arrivé juste par hasard, tu vois. Moi, quand j'entends Cassano dire que Mourinho, il a toujours eu de la chance, hein, voilà, j'ai envie de lui dire tais-toi, quoi. C'est pas vrai, en fait. Mais par contre, ça fait partie aussi de ces entraîneurs d'ancienne génération qui te disent pour gagner un titre, il faut de l'expérience. Il faut des joueurs d'expérience. Ah, ah bon, quels sont les joueurs d'expérience au Napoli? Ah, bah, il n'y en a pas tellement, en fait. Et on peut le décliner. Hein. L'année dernière, il n'y avait pas 50 joueurs d'expérience à Milan. Bon, ça ne les a pas empêchés de gagner le Scudetto. C'est un discours qui est un peu passé maintenant. Et donc, ce match contre, pour revenir au match contre ce quart de finale contre Feyenoord, c'est aussi un peu le choc de deux mondes, quoi. Et qu'on avait déjà vu lors de la finale de la Conference League, hein, d'ailleurs. Si on se souvient du scénario, bon, il y a quand même Rui Patricio qui fait un ou deux arrêts importants, avec une équipe qui est aux antipodes de celle de Mourinho. Donc, ça sera évidemment une opposition de style qui va être très importante. Encore une fois, avec la Roma, mais comme avec l'Inter depuis début 2023, tu es... Et c'est bizarre de dire ça parce que tu as six clubs qui sont quand même qualifiés en quart de finale de Coupe d'Europe. Mais moi, j'ai zéro certitude sur... Tu me dis la Roma va gagner 3-0 le match aller, je te dis bah oui. Tu me dis la Roma va prendre 3-0, va perdre 3-0, je te dis bah oui. Tu vois oui. Et, c'est... Le tout est possible, c'est bien quand c'est positif, mais le tout est possible qui te fait t'arracher les cheveux 10 fois par an aussi, c'est dur de construire là-dessus en fait. Donc,
comme le match contre le Betis au retour qui avait été très compliqué, très très compliqué.
Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais.
C'était passé extrême.
Pas le Betis, la Real Sociedad.
Le Real Sociedad, pardon.
Ouais, ouais.
La Real Sociedad, évidemment. La Real Sociedad. Ouais.
C'est un miracle aussi. Hein.
Au retour, ça avait été quasiment un monologue.
Totalement.
Ça avait été très compliqué.
Totalement, mais tu vois, ce qu'on avait retenu dans la presse italienne, c'est. Tu avais même entendu des mecs dire la Roma a géré le match aller. Ils n'ont rien géré, en fait. S'il n'y a pas une barre, un raté improbable pour Rui Patricio, tu gères quoi ouais. Tu vois, tu te souviens de... Je fais un petit aparté, mais tu te souviens de Tottenham-Milan, le match retour?
Oui.
On a vu le même commentaire. Milan a géré son résultat 1-0 du match aller. Mais si Maignan, il fait pas la parade extraordinaire à la 92e minute, Milan, ils ont géré quoi?
C'est vrai. On parle d'un 1-0 et prolongation.
Voilà. Donc, ça, c'est toujours le truc de... Parce que t'as pas encaissé de but, t'as géré. Bah non, non. C'est le scénario du match, il est pas comme ça, en fait. Donc... Donc voilà, j'ai hâte de voir aussi cette rencontre, mais tout est clairement ouvert. Et il faudra, par contre, ce qui est certain, c'est qu'il faudra un grand Dybala. Parce que, offensivement, cette saison, s'il n'y a pas Dybala.
C'est de la dépendance.
C'est
de la
dépendance. Ouais, à ce niveau-là, c'est grave. Hein. Tu sais, je faisais. Tu vas meubler un instant le temps que je retrouve ma stat.
Non, évidemment, mais pour revenir sur Dybala, j'en parlais avec des amis qui sont pour la Roma, et évidemment qu'il voilà, il répond aux attentes. Et tu sais, Johan, je trouve vraiment qu'aujourd'hui, c'est très rare de voir une équipe aussi dépendante d'un joueur. C'est-à-dire que c'est vraiment le jour et la nuit quand Dybala est là ou non. Et c'est vraiment un joueur, alors évidemment, on le sait qu'il fait la différence, mais pour qu'il le fasse autant dans une équipe après seulement quelques mois, voilà, c'est évidemment très bien, mais d'un côté, c'est aussi inquiétant, dans le sens où quand il n'est pas là, bah, la lumière s'éteint.
C'est parce que ton entraîneur a créé un système autour de Dybala aussi, c'est ça le problème. Si. Et qu'il y a trop peu d'alternatives. Donc j'ai retrouvé ma stat pour parler de encore cette inefficacité offensive. La Roma, si on fait la différence entre... d'ailleurs, j'ai même pas pris la bonne de stats. Attends. Voilà. Bon, ça change strictement rien, d'ailleurs. Si on fait la différence entre but marqué et expected goals, mes fameux expected goals, la Roma est à moins 5,8. C'est-à-dire que la Roma a créé beaucoup plus d'occasions de qualité pour marquer qu'elle n'a marqué de but. Le Milan est à plus 1,4 Donc c'est une petite surperformance, mais pas énorme.
Pas énorme.
La Juve est à plus 5,1. La Lazio est à plus 7,7. Le Napoli est à plus 11. Tu vois les quelques points qui manquent aussi, quelque part. Quand bien même tout ce que j'ai dit sur l'absence de football, l'absence de jeu, etc. T'as 10 buts, t'as 11 buts d'écart entre la Roma et la Juve, entre les occasions produites et le nombre de buts marqués. Tu te rends compte de ce que ça fait 11 buts sur 28
bien
journées
sûr.
Parce que là, on parle même pas de 38 journées, on parle de 28 journées. C'est-à-dire que l'écart peut encore grandir d'ici la fin de la saison. Donc, malgré un système restrictif, attentiste, défensif, passé, tout ce que vous voulez, il y a aussi un fait que, devant le but cette saison, c'est trop compliqué. Et c'était déjà le cas la saison dernière, souviens-toi, la Roma était l'une des équipes d'Europe qui sous-performait le plus. Bah, c'est encore le cas cette saison. Et cette année, la différence, c'est que les buts d'Abraham, tu ne les as pas. Et donc, ça serait un bon signal qu'Abraham se réveille pour la Roma, finalement. Il en est capable. Moi, je trouve que c'est un joueur de qualité.
Totalement d'accord.
Qui va être très attendu contre Rotterdam. On passe à Juve Sporting, Guillaume. Donc ça sera à 21h.
Qu'est-ce qu'on attend de cette Juve? Qu'est-ce qu'on va attendre de cette Juve face au Sporting?
Ah ben, moi, j'attends de la Juve qu'elle aille en finale.
Oui.
Déjà, c'est clair, net et précis. Budget, masse salariale, qualité des joueurs, la Juve doit être en finale de ces trois. Il n'y a pas d'autre possibilité. Ça, c'est clair, net et précis. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'au niveau des résultats, même discours qu'avec la Roma sur le jeu.
Ça se ressemble beaucoup.
Mais au niveau des résultats, en tout cas, une seule défaite sur les 14 derniers matchs avant ce qui se passera demain contre la Lazio. On a un Di Maria qui est sublime. On a un Gatti qui est en train de s'imposer tranquillement en défense. Et ça, c'est bien aussi quand on pense un peu à la Nationale. On a un milieu rajeuni où, ah bah tiens, miracle, Guillaume, Fagioli, en fait, c'est pas mal, Fagioli.
Miretti.
Ah, Miretti, c'est pas mal. Mais ce serait peut-être mieux que des joueurs expérimentés qui n'en ont rien à faire de la Juve et qui sont venus là pour cachetonner, non? Qu'est-ce que t'en penses?
Je suis totalement d'accord.
Attends, des jeunes joueurs? Tu vas faire croire que des jeunes joueurs peuvent jouer en Serie A?
Et encore une fois, Johan, le fait que Miretti Fagioli joue, c'est très bien, mais heureusement, d'un côté, il y a eu un problème de circonstances par rapport aux blessures qui ont fait que, voilà, qu'ils ont pu avoir du temps de jeu. Et sinon, je ne suis pas certain qu'ils auraient eu toute cette possibilité-là de se montrer. Donc, heureusement, voilà, que d'un côté, alors évidemment, malheureusement, Paul Pogba a toujours du mal à revenir, ou il n'est jamais revenu d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, quand les deux ont été alignés, ou quand les deux jouent, on l'a encore vu contre l'Inter récemment, et pas en Coupe d'Italie, mais en championnat de la victoire 1-0 au Meazza. Enfin, t'as quand même un Fagioli qui est, et Miretti aussi, hein, mais Fagioli vraiment, et Pirlo l'a dit d'ailleurs dans une interview récente où lui aussi apprécie beaucoup les qualités de ce joueur-là, mais en tout cas, et même Rabiot, Johan, quand même,
qui fait plutôt
une bonne saison, C'est plutôt une très bonne saison.
Des bonnes saisons, décisif, beaucoup de projections vers l'avant, a beaucoup progressé sur le jeu sans ballon, qui était un des trucs qu'on lui reprochait le plus, d'ailleurs. Rabiot est vraiment là, bien installé. Il faudra voir ce qui se passera au niveau contractuel maintenant, mais le Sporting, attention, est une belle équipe. Il faut toujours, c'est un peu lourdingue presque, parce qu'avec les clubs portugais et les clubs néerlandais, il faut toujours rappeler, attention, c'est une belle équipe, ça joue bien, c'est des bons joueurs, c'est un jeu plutôt de qualité avec un très bon entraîneur. Ils ont quand même sorti Arsenal, ce qui est pas rien, c'était le gros favori de la compétition, donc c'est pas rien, mais on verra. Et puis il faudra voir aussi si ma fameuse formule que j'aime tant répéter, 3-4-3, passe le ballon à Di Maria et advienne que pourra, se répétera encore une fois, comme contre Nantes, comme contre beaucoup d'autres équipes où tu donnes le ballon à Di Maria. Et alors je dis 3-4-3 parce que ça rime, mais en fait c'est plutôt 3-5-2 que 3-4-3, mais 3-4-3 ça rime, c'est plus sympa.
Mais ce serait bien aussi, tu vois, que des joueurs comme Vlahovic aussi commencent. Parce que Vlahovic, on...
Même chose qu'Abraham.
Voilà, ouais, c'est compliqué. Cette année, notamment ces dernières semaines, où vraiment, on voit un joueur en manque de confiance, un peu nerveux. Alors voilà, qui se bat, qui a de l'engagement, mais quand même, voilà, qui a perdu un peu son football. On l'a vu trop par parcimonie depuis qu'il arrive à la Juve. Alors voilà, on va pas revenir sur le discours autour de lui, du collectif, mais aujourd'hui, c'est quand même plutôt un collectif qui tourne, même si ce n'est pas un collectif qui produit un énorme football. Et c'est vrai que Vlahovic, tu sais, on croirait un peu un pêche et Folda, quoi, un poisson hors de l'eau, comme ouais. Italie. Et c'est un peu ça. Et un autre joueur qui m'inquiète un peu, c'est quand même Federico Chiesa. J'ai dit beaucoup de choses, de l'inquiétude sur son genou. On le sait, c'est un joueur qui était blessé et qui a été un peu coupé en plein vol. Mais voilà, de ce qui filtre dans la presse quand même, on a un joueur qui n'est pas totalement en phase avec son physique, avec ses blessures, qui est parti récemment en Autriche faire une consultation, une arthroscopie à son genou pour être rassuré. Donc, tu as un joueur quand même, tu vois, qui quand il entre, parce que plus généralement, il entre, est quand même pas libre de penser. Et Federico Chiesa, on le sait, c'est un joueur... qui quand il le veut exceptionnel, mais s'il n'est pas libre dans sa tête, c'est trop compliqué. Et je ne sais pas ce que tu penses toi de ce dossier-là, ce dossier Chiesa, mais même pour la sélection, tu vois, on en parlait. Ouais. Voilà, va falloir quand même que voilà que soit Chiesa refait quelque chose pour son genou, si vraiment, parce qu'apparemment lui a toujours des douleurs de ce qui filtre de la Juve et il n'arrive pas à être à 100%. Ou alors, vraiment, va falloir penser quand même à faire quelque chose parce que la Juve et la sélection ont besoin d'un Chiesa à 100% et qui joue son football spensierato, vraiment sans avoir de pensée ou sans se dire si je fais ça, je vais me blesser.
Ouais, mais c'est difficile parce qu'on ne connaît pas le dossier médical, mais il a besoin de temps, c'est clair. Est-ce que c'est juste du temps et. Pour que son genou encaisse aussi le fait de reprendre la compétition, de rejouer des matchs, de reprendre des coups, de reprendre des appuis forts. Peut-être que c'est simplement ça. Peut-être que ça passera par un autre acte chirurgical. C'est difficile, mais tu sais... ça fait quoi ? Ça fait 14 mois maintenant, je crois, qu'il s'est blessé. Ça devait être en janvier... 2022, oui. C'est ça, hein, je crois. Hein. Ça va faire 14-15 mois. Regarde combien de temps... Alors, c'est une blessure différente. Hein. Attention, c'est très différent. Mais regarde, on est en train seulement de revoir des bonnes performances de Spinazzola. Et Spinazzola, ça fait 18 mois.
Et tu sais,
c'était juillet 2021. Et tu vois, là, c'est depuis... ça fait plus de 18 mois, en fait.
Zaniolo aussi, hein. Il a fallu beaucoup, beaucoup de temps, hein. C'est encore compliqué parfois, donc... c'est tellement des grosses blessures, en plus.
Ouais. C'est compliqué. Bah, puis, tu sais, c'est tellement, un, des grosses blessures, et deux, c'est tellement des joueurs qui ont...
Moi, j'ai le mot en italien, mais je ne l'ai pas en français.
Des appuis tellement forts... que dès que ça touche les articulations, le tendon d'Achille, toutes ces choses-là, c'est compliqué parce que effectivement, moi, je comprends que Chiesa avec des appuis aussi forts, une accélération aussi, tu sais, foudroyante, puissante.
Exactement. Ouais,
je comprends qu'il ait pu, enfin, qu'il puisse avoir mal au genou en fait.
Je cherchais le mot strap en français, ouais. Tu vois. C'est des joueurs qui, tu l'as dit. Évidemment, moi aussi, je comprends, mais. Il va falloir tu vois, que ça sorte, parce qu'on soit Chiesa, quand même, tu l'as dit, c'était il y a 14 mois sa blessure,
ouais.
Un peu plus. Ouais. C'est certain que c'est long, mais voilà, il y a beaucoup d'échéances importantes qui arrivent pour la Juve, pour la sélection aussi, donc
non,
c'est
mais
tellement
tu vois, la chance
qui est important.
La chance qu'il a quelque part, enfin que lui a et que la Juve a, c'est qu'il n'y a pas besoin de se presser en fait, parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments offensifs du côté de la Juve.
Oui, c'est vrai.
Tu vois, donc il n'y a pas une urgence absolue de risquer Chiesa sans arrêt, de le faire enchaîner les matchs, etc. Tu peux le gérer un peu plus, je vais dire intelligemment, c'est même pas de l'intelligence, c'est tranquillement en fait, patiemment. Donc on verra, mais ce qui est certain, c'est que cette Juve-là, aujourd'hui, ouais, une obligation quasiment morale, en fait, pour ce que ce club est, pour les supporters, pour sa position dans le football italien, pour le football italien d'aller très loin dans cette compétition. Guillaume, on finit par nos amis de la Viola, la Fiorentina qui sera à Poznan pour affronter le Lech Poznan. Ça sera aussi jeudi à 21h en Conference League. Ce qu'on va leur souhaiter, c'est d'avoir le même parcours que la Roma la saison passée dans la même compétition, de rêver un parcours glorieux. Et honnêtement, Guillaume, quand tu regardes un peu cette équipe, bah, ils en ont les capacités, non ?
Bien sûr, et surtout sur une série assez dingue, je crois que c'est 8 ou 9 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Ils viennent de gagner à Cremone en demi-finale aller de la Coupe d'Italie, ils vont certainement aller en finale, donc mine de rien, tu vois, la saison de la Viola a tourné, parce qu'on voilà, on est une première partie de saison assez difficile, avec un Italien qui était assez critiqué, hein, qui était même sur la sellette. Et voilà, avec un peu de temps, avec un peu de patience, il est évidemment resté et l'équipe a commencé à tourner, et surtout devant, enfin, il y a un Cabral qui marque. Ouais. Il était temps. On a un Jovic.
Tu pensais que c'est lui qui aurait gagné le duel du 9 ?
Absolument pas. Moi, je croyais beaucoup en Luka Jovic, tu vois. Et non, finalement, c'est Cabral, mais tu vois, c'est quand même la FIFA qui a gagné à Milan contre l'Inter. Donc, ils sont vraiment sur une bonne série, une bonne dynamique. Et je les sens vraiment lancés. On a un Bonaventura aussi qui mine de rien est devenu quand même très important pour la FIO. On a un Castrovilli qui devant la défense contre l'Inter avait été très bon. Il y a vraiment beaucoup de points positifs. On a un Terracha qui prouve quand même qu'il est un très bon gardien. On a Igor, alors moi j'étais pas très fan d'Igor, mais qui quand même tient la route. On a un Barak qui a eu du mal aussi un peu à rentrer dans les rotations, mais qui aujourd'hui est une arme en plus. On voit, il y a beaucoup de choses. On a Ikoné aussi, hein, qui a eu beaucoup de mal à son arrivée et qui aujourd'hui devient un joueur décisif. Donc, en fait, tout tourne vraiment, pour le coup, dans le bon sens du côté de la FIO. Donc, c'est très encourageant pour la FIO Conference League. Et voilà, tu as dit, on espère un parcours comme la Roma, c'est exactement ça. Il n'y a que des équipes à la portée de la Fiorentina, donc rêver d'une finale et d'une victoire, c'est quelque chose qui est possible, et quand tu vois la dynamique, contrairement à d'autres clubs italiens engagés en Europe, même si c'est la coupe, on va dire, des plus grands, bah, la Fiorentina aujourd'hui c'est l'une de nos plus grandes chances quand même, hein, en Coupe d'Europe, d'aller au bout, donc assez content quand même que la saison ait tourné dans le bon sens pour la FIO, et surtout elle a montré que dans les grands matchs, dans les grands soirs, elle est au rendez-vous. Elle a battu l'Inter, elle a battu Milan. Donc non, c'est encourageant en tout cas pour le parcours en C4.
Et puis je trouve qu'il y a une maturité démontrée contre Sivasspor qui montre que c'est vraiment sur une bonne dynamique. Et tu vois, j'ai relevé un truc que tu as dit qui m'a fait sourire. Tu as dit je suis content que la saison est tournée, tu vois, ou qu'il y ait une bonne dynamique. Je sais plus comment tu l'as dit, mais. Et donc du coup, je voulais dire pourquoi tu es content ? Que ça ait à nouveau bien tourné.
Parce que c'est une équipe qui joue au football, ou du moins qui veut jouer au football. Et surtout, on connaît l'Italien. On connaît l'Italien, on a vu ce qu'il a fait à Spezia. Donc forcément, tu as envie que des équipes qui ont ces principes-là, ça marche.
Et ouais. Et finalement, je trouve qu'on a beaucoup parlé football dans ce podcast, évidemment, heureusement. Mais tu vois, quand on parle des équipes qui ne jouent pas et qui sont irrégulières, et etc., ceux qui finalement misent sur le jeu, à un moment donné, sont récompensés, et c'est pas plus mal comme ça. Voilà, Guillaume, qui boucle notre preview de ces quarts de finale de Coupe d'Europe, C1, C3 et C4. On va espérer, non pas simplement pour le ranking UEFA, parce qu'après tout, on n'est pas des comptables, mais plus pour les émotions que des victoires apporteraient. Qu'on en ait un maximum en demi-finale, ça serait quand même chouette. On espère aussi voir des bons matchs, voir des équipes italiennes dignes de ce niveau de la compétition, le plus proactif possible, afin de montrer une belle image de ce qui est possible d'être fait en Italie. Et puis on se fera éventuellement un petit point avant les demi-finales, voir qui sera toujours dans le bateau.
Bien sûr.
Et qui sera sur la plage en train de bronzer.
Bon, en tout cas, on peut dire qu'on est très content de retrouver les auditeurs. Vous le savez, on a deux emplois du temps chargés. Johan revient d'un gros Covid. Mon cher Johan, ouais. Dont tu te remets.
Ça s'entend sans doute au nez d'ailleurs, et je m'en excuse d'avance.
Donc voilà, mais en tout cas, voilà, on fait au mieux. Mais voilà, on est toujours là et ça fait extrêmement plaisir évidemment d'avoir ces clubs italiens qui ont ces parcours-là dans les Coupes d'Europe. Et c'est aussi très plaisant de vous retrouver aujourd'hui dans Calcio et Pépé. On est quand même à la combien de saison, mon cher Johan?
Cinquième.
Ça quand même.
Cinquième saison, ouais.
On vieillit en mesure que le podcast vieillit. Donc,
alors, moi, j'ai perdu des cheveux. Et toi, Guillaume?
Écoute, Johan, moi, mes cheveux, pour l'instant, ça va. Donc, ne me porte pas la guigne. Moi, je suis très superstitieux. Je vais aller toucher tout le bois possible qui est autour de moi. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver, de te retrouver aussi, Johan. Et, ouais. Et bien sûr, on fera un podcast bientôt pour revenir sur l'avancée de nos clubs, on l'espère, en Europe.
Voilà qui boucle ce nouvel épisode. Je n'en rajouterai pas plus parce que tu as très bien dit, Guillaume, notre joie de refaire un épisode. Allez vous abonner quand même sur Apple Podcast, Spotify, Deezer. J'ai perdu l'habitude de le faire, mais Google Podcast, etc., etc. N'oubliez pas les 5 étoiles, Guillaume, hein, sur Apple Podcast. Et puis nous, on se dit, comme depuis quelques mois maintenant, on ne donne plus de... On se dit pas rendez-vous telle date, on se dit rendez-vous très vite, et puis on verra quand on aura le temps.
On pourra même faire un question-réponse.
C'est vrai que ça avait bien marché.
Ouais, on pourra faire un question-réponse. Peut-être après, on va attendre que la saison avance un peu, mais on va voir ce que les clubs italiens feront en Europe. En tout cas, faire un question-réponse avant la fin de la saison. Je pense que
puis on se donnera rendez-vous, Guillaume, pour un spécial Napoli, au moment du titre quand même.
Bien sûr, avec la fête qui se prépare.
C'est ça, exactement. Il y aura beaucoup de choses à raconter. Merci Guillaume, merci à tous les auditeurs, à toutes les auditrices, et puis à très vite pour un nouvel épisode de Calcio et Pépé. Ciao.